Béthune, 7 août 1914.
Mon Jules.
Mon cher frère, voilà déjà une journée que toi et François êtes partis, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité.
Mon très cher.
Je n'arrive pas à oublier cette terrible image de cet incroyable rassemblement. J'essayais de ne pas pleurer comme je vous ai promis, mais de voir maman s'effondrer à côté de moi, je n'ai pas réussi à contenir mes larmes. Tu vas bien ? Que s'est-il passé ? Nous avons su que les Allemands étaient à Dinan, ça m'a totalement terrifiée. Je ne cesse de penser à vous.
Le 7 août 1914, Béthune. Mon chéri, voilà maintenant 24 heures que tu es parti. Tu me manques déjà. La peur me hante depuis ton départ. Je n'arrive plus à dormir. Les journaux nous disent que la guerre ne durera pas longtemps. Environ 2 mois. Mais 2 mois, c'est long sans te voir. J'espère quand même que de ton côté tout va bien et que tu te fais à l'idée de te battre pour ton pays. C'est tout de même un honneur pour toi et pour ta famille. Ici, nous sommes tous fiers de toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Fais attention à toi, s'il te plaît. Ne te mets pas en danger lorsqu'il ne le faut pas. Je pense à toi chaque seconde qui s'écoule.
La compagnie Nautique présente sa dernière création sous plusieurs formes pluri-artistiques. Tout d'abord, une installation sonore intitulée « La Grande Guerre des Femmes ». Elle se déroule au musée d'ethnologie de Béthune, Chapelle Saint-Prix, jusqu'au 15 mars, et évoque la place des femmes dans la société. Ce n'est pas seulement une exposition retraçant le parcours, l'engagement et le courage des femmes de 1914, mais qui s'intéresse aussi 100 ans plus tard à leurs conditions dans la société actuelle. Autour de ce temps fort, un spectacle a été également créé qui s'appelle « Noir sur Noir », dans lequel vous pourrez déguster des textes d'Apollinaire, le rock du groupe Marabout et des images de cinéma d'époque qui retracent de manière originale les rêves d'une jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Pour en savoir plus sur le pourquoi du comment de ces deux créations, entretien avec Nicolas Fabas et Clément Bailleul de la compagnie Nautique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de ce que vous allez présenter et de quoi vous allez nous parler, on va d'abord aborder la compagnie Nautique. Alors, elle est née depuis quand et qu'est-ce qu'on y fait exactement ?
C'est une compagnie qui existe depuis 2012, mais qui est composée de personnes avec qui chacun travaille. Enfin, on travaille les uns avec les autres depuis 2006-2007. C'est une compagnie qui est installée sur Béthune, qui est vouée à travailler, on va dire, sur le territoire, présenter des créations originales et aussi faire un gros travail au niveau du territoire pour rencontrer les gens et les emmener aussi vers le spectacle et vers des choses qu'on a envie de raconter.
Et puis Clément, toi tu es également membre d'un groupe qui s'appelle Marabout.
Oui.
On en reparlera
tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Donc vous êtes là pour présenter 2 choses. D'abord une installation sonore qui a pour titre La Grande Guerre des Femmes.
Tout à fait.
Et qui est évidemment en rapport avec le centenaire de la guerre 14-18, mais vu d'un autre angle. Donc vous nous en parlerez évidemment juste après, nous avoir expliqué qu'est-ce que c'est que cette installation sonore.
L'idée, c'est qu'on voulait traiter de la Grande Guerre, pas de la manière qui est traité, on va dire, de manière assez exponentielle ces derniers temps, qui serait l'histoire, les veuves, les orphelins, regardez comme ces poilus ont atrocement souffert. C'est le cas, mais à ce jour, ni Clément ni moi n'allons sur les manifestations de commémoration, etc. Et on ne se sent pas tellement touché par ce pan-là de l'histoire. Alors, on pense que c'est important, mais comment ça nous parle ? Et donc, on avait envie de travailler autour de l'intimité et de comment ça pouvait résonner chez nous de manière vraiment pleine et pas comme quelque chose d'ordre patrimonial. Donc, on a créé un projet autour d'un spectacle qu'on crée. On a envie d'aller à la rencontre de personnes et de les faire s'exprimer intimement sur une thématique. Donc là, en l'occurrence, c'était la Grande Guerre. Et de se dire, on va aller rencontrer des gens, on va les faire écrire, on va les faire lire, on va les faire s'exclamer, s'exprimer. Et pas l'utiliser ça pour un spectacle en faisant venir des gens sur le plateau ou en tout cas en disant, ce sont des paroles qui ont été dites par des vrais gens, etc. C'est pas là-dessus qu'on se sent forcément à l'aise. Mais à partir de ça, la création d'un spectacle et comment aussi nous, en lien avec les rencontres qu'on a faites, on a envie de parler de ça. Et donc l'installation sonore, en fait, on va dire qu'un autre pendant du spectacle, c'est aussi la façon d'entendre toutes ces voix qu'on entend très peu, de les mettre en regard avec le thème. Ici, en l'occurrence, c'est la Grande Guerre.
Donc, qu'est-ce qu'on pourra y voir sur cette installation sonore et surtout, qu'est-ce qu'on pourra y entendre ?
Visuellement, en fait, on a l'impression d'être face à un grand arbre qui est assez stylisé. Alors, l'arbre, c'est la généalogie, c'est les racines, c'est tout ce qu'on y veut, c'est la connaissance. Il y a énormément de symbolique. Et à ces casques pendent un peu comme des spectres, des choses pendantes, un peu mortes finalement, des casques de poilus, alors des reproductions. Et donc là, je vais passer au sonore. Une fois qu'on s'approche de ça, on entend des murmures, des choses, parce que derrière ces poilus que tout le monde vénère parce qu'ils ont donné la vie, leur vie pour la France, c'est comment, derrière ces casques qui sont l'aspect apparent de la guerre, comment est-ce qu'en fait, si on se rapproche un peu, c'est pas leur voix qu'on entend, c'est la voix de ces femmes qu'ont changé la France, qui l'ont maintenue à flot pendant 5 années. Et si on fait bien attention, en fait, non, ces voix, ce sont les voix de femmes d'aujourd'hui et qui sont, on va dire, les arrière-petites-filles des femmes d'il y a 100 ans. Et de se dire comment elles perçoivent le chemin qui a été fait en 100 ans et quel regard elles portent là-dessus, parce que ça doit être une exposition dans un musée d'ethnologie. Il est clair que les gens qui le fréquentent, ce sont les gens d'aujourd'hui, et finalement, ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est pas l'histoire en elle-même, mais c'est comment aujourd'hui les gens, comment il y a des répercussions sur eux.
Donc les constructions visuelles, elles sont de qui ?
Elles sont d'Amélie Madeline, en fait, qui est une artiste qui vient de Saint-Denis, à côté de Paris, et en fait qui travaille dans un établissement, je sais pas comment...
Un énorme hangar.
Un énorme hangar où en fait c'est une sorte de collectif d'artistes qui s'appelle La Briche, qu'on avait rencontré, où il y a aussi des personnes qui sont là par exemple pour faire du son aussi, elle a un peu chapeauté, on va dire, la construction et réfléchi avec nous. C'est la première fois qu'on travaille avec une plasticienne, c'était aussi un défi pour nous parce qu'on est une compagnie de théâtre à la base, on n'est pas du tout des plasticiens, le son... C'est des choses qu'on côtoie, mais on n'est pas à l'origine spécialiste de l'aspect technique de la chose. On est très satisfait pour le coup d'Amélie, qui est une artiste, on va dire, pleine, et qui n'est pas uniquement quelqu'un qui travaille avec ses petites mains dans son établi. L'idée, c'était vraiment d'avoir un projet qui soit cohérent de bout en bout, et elle a été assez motrice là-dedans.
Ouais, donc on peut dire que c'est une création artistique pluridisciplinaire, hein, parce qu'il y a toute forme d'art... plusieurs formes d'arbres qui apparaissent dans ce spectacle, enfin dans cette installation sonore, puisqu'il y aura un spectacle aussi, on en reparlera après. Du coup, le son de ces femmes d'aujourd'hui, et pour ça, je pense que tu as effectué des micro-trottoirs. Alors comment ça s'est passé ? Comment tu as abordé les gens ? À quel endroit ? Est-ce que c'était facétieux ou pas ?
Alors c'est toujours facétieux, je crois que tout ce qu'on fait, la facétie a une place importante, je crois. Pour ce qui est des micro-trottoirs, c'est pas l'intégralité de l'installation, mais on est allé voir des femmes, exclusivement des femmes, c'est une installation exclusivement féminine. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on est quand même deux garçons, et jeunes, qui plus est, donc avec un rapport aux personnes plus âgées et féminines qui est différent. Donc c'était les questionner notamment sur, on va dire, deux thématiques. Selon vous, en 100 ans, comment... a évolué la femme, sa vie, son quotidien, ses rapports à l'autre en 100 ans. Et de l'autre côté, c'est vous, personnellement, dans votre famille, les contacts que vous avez, que savez-vous des personnes, et notamment des femmes de votre famille, qui ont connu la Grande Guerre ? Savoir si, effectivement, le chemin se perpétue, s'il y a vraiment une mémoire collective. Voilà, c'était vraiment, vraiment ça. Non pas ce qu'on apprend à l'école, mais vraiment... au niveau intime. Et effectivement, les réponses ont été très différentes selon les générations, évidemment, parce qu'on a rencontré des femmes assez âgées, qui ont un rapport plus direct, puis aussi un rapport avec la Deuxième Guerre, qui vient un peu parasiter aussi le souvenir qu'on peut en avoir. Et puis, avec une génération neuve, qui veut savoir, mais qui a très peu accès, en fait, à l'intime, par rapport à la guerre, si ce n'est ce qu'on sait dans les médias ou à l'école, et que ça reste assez éloigné finalement.
Avant de retrouver Nicolas et Clément de la compagnie Nautique pour nous parler du deuxième temps fort, le spectacle Noir sur Noir, je vous propose un petit aperçu sonore de cette installation avec un court extrait de leur micro-trottoir sur la condition des femmes d'hier et d'aujourd'hui.
Bah, il y a le vote déjà.
Je pense que déjà le droit de vote, ça a été...
Le droit de la femme.
Le fait que les femmes maintenant sont indépendantes, elles travaillent, etc. Donc elles ont plus l'obligation d'avoir l'autorisation de leur mari, etc.
L'autonomie. Avant, elles dépendaient des hommes.
Ils n'avaient pas de permis de conduire, ils n'avaient pas de moyens.
Maintenant, elles ont un emploi, alors qu'avant, c'était les hommes qui allaient travailler, les femmes qui s'occupaient des enfants.
Disons que les femmes travaillent, chose qu'elles ne faisaient pas en ce temps-là. Elles travaillaient chez elles ou à la ferme quand elles étaient agricultrices.
D'avoir un peu plus un rôle important dans la société, quoi.
Puis surtout la liberté d'expression. Avant, la dame n'avait pas tellement le choix de dire ce qu'elle pensait ou on ne l'écoutait pas. Que maintenant, ils n'ont plus le choix, ils l'écoutent. Elles ont plus de caractère. Voilà, elles s'affirment plus.
Bah, on est libérées, femmes libérées aujourd'hui. On fait ce qu'on veut, on est indépendantes. Le grand saut, c'est l'indépendance, moi, je trouve, pour les femmes.
Qu'on a plus de droits maintenant. Je vois mes petits-enfants, bon, ils ne vivent pas du tout la même façon que lorsque nous, on avait 18 ans. Eux, à 18 ans, ils ne vivent plus comme nous. Hein. Alors, en 1914...
Elle aurait travaillé jeune ou bien elle aurait déjà des enfants, elle serait déjà chez elle, en mère au foyer.
Elles étaient plus esclaves, mais bien que... Est-ce qu'on n'est pas esclave aussi, femme d'aujourd'hui, en travaillant, en élevant ses enfants et je sais pas, hein, de ce côté-là.
C'est vrai.
Ouais, là, nous, on a une belle vie qu'eux, ils avaient une belle vie. Hein, ils devaient travailler, ils devaient faire beaucoup de choses, hein, assumer. Hein. Ils travaillaient comme un homme, hein. Faut dire qu'est-ce qu'il y a. Hein. Ils allaient dans les champs, ils allaient n'importe où. Hein.
Ben, je pense que les femmes d'aujourd'hui ne sont plus forcément au foyer comme il y a 100 ans. Et elles ont un métier beaucoup plus indépendant, certainement.
Quand les hommes se battaient, les femmes ont dû prendre quand même pas mal de responsabilités en plus. Elles ont dû un peu prendre le rôle des hommes. Et je pense que c'est malheureusement grâce à ça qu'il a commencé à y avoir une évolution.
Je pense que la place de la femme dans la famille, malgré tout, elle n'a pas changé. Elle est toujours, c'est toujours elle qui s'occupe en priorité quand même, il faut bien l'avouer, du ménage, des enfants et de tout ce qui entretient de la maison.
On va enchaîner sur le spectacle qui s'appelle Noir sur Noir. Si vous pouvez peut-être nous faire un peu le pitch de ce qui va s'y passer.
Alors je vais laisser Nicolas faire le pitch et je compléterai après, parce que c'est le metteur en scène.
Ah, d'accord. Alors, en fait, donc toujours dans cette optique de ne pas raconter la guerre comme on veut nous la faire raconter, on est parti de trois choses qui nous paraissaient importantes. D'abord, c'était de partir de l'intime, et on a regardé un peu dans les paroles intimes qu'on avait à notre disposition autour de la guerre, ce qui nous touchait. Ça a été le cas de certains écrits d'Apollinaire. Alors pas le côté trash d'Apollinaire... sadomasochiste et tout ça, ça nous a pas forcément intéressé, mais paradoxalement il y a une certaine pureté dans son écriture, notamment dans les lettres à Lou. En fait, il a eu une maîtresse, ça a été assez rapide, mais finalement la correspondance qui a été derrière a été plus longue que la relation elle-même, et où en fait quand il est allé dans les tranchées, il était en lien avec elle et il disait que de toute façon, peu importe ce qui se passait dans cette guerre où la destruction était partout, lui il restait absolument convaincu qu'il la retrouverait et que d'ici là il n'irait voir aucune femme, même qu'il ne se masturberait pas. Remettons les choses dans leur contexte, c'est ce qu'il écrivait. On ne sait pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il défendait cette idée, cette poésie aussi romantique de la quête du Graal, de cette chose absolue, pure, etc. Et à l'inverse, il disait que, voilà, que tous les hommes autour de lui allaient voir les femmes qui avaient des bordels où il y avait 500 hommes qui passaient à la journée, qui se vautraient dans les choses qu'ils pouvaient avoir avant de mourir, ce qui se comprend. L'idée, c'était pas du tout d'émettre un jugement pour l'un ou pour l'autre, mais en tout cas de questionner ça. Et puis, après, cette envie de mêler l'intellectuel, donc enfin, un peu l'écriture, avec quelque chose de beaucoup plus sensitif. Et il se trouve que Clément, dans sa musique, qu'il fait avec notamment le groupe Marabout, j'avais trouvé un côté très sombre dans la musique qui m'intéressait beaucoup. Et en même temps, là, Clément, qui a une voix, qu'on n'en doit pas beaucoup pour l'instant, mais qui a une voix assez suave, assez chaude, qui contrebalançait pas mal avec justement cette musique sombre. Et c'était exactement le propos de ce qu'on souhaitait raconter. Et donc la troisième chose, c'était la vidéo, que l'idée c'était d'être sur des projections de sentiments, sur toutes les choses sans doute auxquelles on pense et qu'on se projette, qu'on voit de manière absolument sublime au fond de sa tranchée, sur ce qui nous attend après. Et donc on a travaillé avec donc une collection privée qui s'appelle Lobster Film, qui est la plus grande collection privée en fait de films en France, et notamment de cette époque-là. Et c'était de travailler non pas sur des films d'archives, j'imagine ils sont très sollicités pour ça, mais ils étaient d'ailleurs assez... ils trouvaient la demande un peu incongrue en fait, de voir comment étaient les représentations de la femme à l'époque, dans tout ce qu'elle a de luxurieuse, et en même temps de pure, et essayer de voir... un petit peu comment on pouvait modeler tout ça. À partir de ça, on a créé un spectacle qui n'est pas du tout narratif, qui n'est pas du tout centré sur la guerre 14-18, parce qu'on avait envie que le spectateur puisse mettre ça dans un autre contexte et se dire qu'une fois que tout est détruit, quel espoir certains arrivent à se raccrocher et à tenir cet espoir, même si toutes les sollicitations autour se disent que c'est foutu, quoi, qu'il faut abandonner.
Clément, toi, en tant que musicien, tu peux peut-être nous parler un peu du groupe Marabout et bah, comment t'es venu l'idée. Est-ce que c'est toi qui, comme tu fais partie également de la compagnie Nautique, est-ce que c'est toi qui as proposé à Nicolas de coller la musique, ou est-ce que c'est lui qui finalement s'est dit bah, tiens, je vais aller chercher aussi la musique de Clément qui me semble...
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que on avait envie de faire un projet ensemble à la base, à la toute base. Après ça a un peu dévié, mais moi j'étais en train de travailler sur le nu au théâtre en fait, et en même temps on parlait d'un projet qui nous intéressait, qu'on voulait mêler le film érotique avec du théâtre. Ça nous intéressait, cette relation, à partir de quand il y a une dénudation du corps, à partir de quand c'est sexuel, à partir de quand ça ne l'est pas. À la base, bon, on voulait partir là-dedans. Mais du coup, en fait, en fin de compte, on retrouve un peu ça dans la pièce. C'est à partir de quand c'est intime, à partir de quand c'est moi, c'est plus moi, c'est le personnage, c'est... Enfin, une dénudation comme ça qui m'intéressait. Et du coup, là, je suis complètement hors sujet parce qu'on me parlait de la musique. Et donc, j'y retourne. Je pense qu'il est venu me chercher aussi en musique parce que... Il y a un truc que j'aime bien sur scène chez les chanteurs, que moi j'aime bien en tout cas, je vais citer Bachung ou Tiffen ou Miossec, ou je sais pas, moi c'est ce que j'écoute, c'est ce que j'aime bien, c'est ce qui me parle. Il se passe un truc sur scène qui dépasse la musique en fait, et qui se passe dans le corps. C'est ça que j'aime bien chez ces personnes-là, c'est que... ça dépasse la musique, et quand on les voit en tant que spectateur, on a presque envie d'être à leur place en fait. Et là, il y avait un truc qui m'intéressait, et je crois que c'est ce que Nicolas recherchait, c'est quelqu'un qui chante et qui a l'habitude de le faire et qui peut donner ça sur scène en fait, dans une sorte de... Je suis pas vraiment un personnage, je suis un peu moi, et en même temps, ça passe par la musique, mais ça passe par le théâtre, c'est un autre endroit... qui fait que mon corps en fait devient dans une sorte de monde un peu trouble et qui correspond pas à une réalité, mais qui en même temps parle est intime et du coup parle d'une certaine vérité en fait. Et je pense que le thème de la guerre, en fin de compte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que à la base on avait envie de parler du corps, mais nous la guerre, le corps dans la guerre, etc. On n'allait pas commencer à faire des recherches historiques sur qu'est-ce que c'est les gueules cassées, qu'est-ce que c'est de vivre dans une tranchée, même si, enfin, c'est hyper intéressant, il y a plein d'écrits tout ça. Mais comment moi je connecte ma génération avec ça, c'est hyper compliqué parce que la guerre pour nous c'est des livres, c'est des documentaires, des archives. Et moi, j'ai un peu du mal avec ça parce que je trouve que c'est pas ludique. Et du coup, comment j'arrive à m'intéresser à la guerre, c'est par ce biais-là. Et du coup, il fallait créer en fait un espace ludique qui est passé par la musique, par le cinéma, par le théâtre, parce que pour nous, il fallait qu'on confronte l'objet guerre qui est un prétexte, mais à du corps. Le corps, c'est un corps projeté, mais c'est un corps qui est là sur le plateau, c'est un corps qui chante, c'est un corps qui est... Parce qu'on a une scénographie où les musiciens sont cachés au départ, on les voit pas. Et donc, c'est tout ce que le corps, en fait, peut dire de ça, et en même temps, sans l'avoir vraiment connu. On dit toujours la guerre, mais ça veut rien dire. La guerre, c'est une somme d'intimité, en fait, d'intime. C'est des micro-bribes de personnes, de phrases. Et en fait, c'est ça qui était hyper intéressant pour reparler vite fait de l'installation sonore. C'est que moi, j'ai plus appris au contact des gens qui me parlent de ça, en tout cas, parce que ça me paraît vrai. Donc ça passe par le corps, encore une fois, et par la mémoire, par tout ça, qu'en ouvrant un bouquin, parce que ça ne me touche pas, parce que je trouve ça pas vrai, en fait.
Les compositions, est-ce qu'elles ont été créées juste pour ce spectacle, ou c'est déjà des choses que vous aviez avec le groupe Marabout
Non, non, non. En fait, sur scène, il y a la pianiste de mon groupe qui fait partie de ça, et puis il y a Joël Serra, qui est aussi musicien et comédien, du coup, pour la compagnie. En gros, c'est un peu l'univers de Marabout, parce que... C'est, je vais dire, dans la même veine musicale. C'est un peu sombre. Textuellement, déjà, c'est moi qui écris les textes, en fait. J'aime pas faire des phrases littéraires, littérales et tout. J'aime bien faire des espaces. J'aime pas être clair dans le texte. Je marche par image, par métaphore. Et du coup, c'est pour ça, sûrement, que la musique est peut-être un peu sombre, parce que c'est pas clair, c'est dans le trou, c'est dans une forêt. On a créé les musiques, oui, pour le spectacle. J'ai écrit les textes, il y a deux chansons en fait pendant le spectacle. Et ensuite, il y a des moments où il y a un peu de musique avec des boucles. Et on a fait la musique ensemble en fait avec Lucie Deleplanque du coup qui est la pianiste du groupe Marabout et Joël Serra qui est guitariste et qui est comédien pour la compagnie Nautique. Voilà.
Il y a eu de nombreuses commandes qui ont été effectuées auprès de la compagnie Nautique. Et justement, si vous n'aviez pas, par le biais, on va dire, détourné en parlant des femmes et de l'envers du décor, collé à cette thématique de centenaire, est-ce qu'on vous aurait ouvert les portes de tous les côtés ou pas ?
Alors, pour ce qui est des portes, il est évident que le centenaire... le fait d'avoir un spectacle sur le centenaire ouvre des portes, et là-dessus, on est assez clair, et quelque part, tant mieux si c'est un projet... parce qu'en fait, c'est un projet qui n'est pas patrimoine, qui n'est pas culture, on va dire, structure culturelle, on va dire classique. Justement, on est au milieu. Et nous, notre objectif... dans la compagnie, c'est vraiment l'idée de faire des passerelles entre différents univers et d'amener des gens voir des choses qu'ils n'iraient pas voir. Je vais prendre par exemple un exemple tout bête, mais notre précédent spectacle s'appelait Antigone. Et l'idée, c'était de voir que des enfants de 8 ans, des personnes qui ne sont jamais allées au théâtre, peuvent aimer Antigone. Et c'était un peu ce défi-là. Qui est un peu le même par rapport à la Grande Guerre, où effectivement, j'ai 15 ans, j'irai pas voir un spectacle sur la Grande Guerre, mais peut-être que j'irai voir Noir sur Noir, parce qu'il y a du rock, parce qu'il y a de l'image. Donc déjà, il y avait cette dimension-là, parce qu'on savait que, évidemment, que la Grande Guerre allait avoir son lot d'appels à projets, hein, enfin, soyons honnêtes. Deux possibilités. Soit on se dit, non, on n'y va pas, tout le monde va y aller, on va en bouffer pendant 5 ans, c'est hors de question. Soit on se dit, bon, de toute façon, on va en bouffer pendant 5 ans, tous les musées, toutes les salles de spectacle vont en parler. Est-ce qu'on a vraiment envie de juste être spectateur de cet amoncellement de lettres de poilus, qui peuvent être très bien dites, hein, les yeux dans le vague, il n'y a pas de problème, mais de se dire, est-ce que nous, on ne raconterait pas les choses d'une autre manière ? Et c'est ça qui nous a intéressés, et que finalement, s'emparer de cette chose-là, mais en faire ce que nous, on a décidé d'en faire, qui puisse toucher les gens aussi, qui vont vers des choses du patrimoine. Par exemple, là, le 25 septembre, on joue dans le cadre d'un projet qui s'appelle Ligne de front, qui est fait par Artois.com, et c'est vraiment quelque chose autour du centenaire, et que finalement, ces gens-là, qui viennent parce que c'est autour de la Grande Guerre, ils vont voir du cinéma mêlé à de l'image, de la musique, et voir quelque chose par rapport au sentiment. Et on a eu pas mal de commandes depuis le début de la création de la compagnie Nautique, parce qu'on travaille pas mal avec la ville de Béthune et les environs. Et en fait, c'est vraiment ça. Enfin, je me rends compte que c'est aussi ça qu'on a envie de défendre, en fait. Par exemple, on a fait une forme autour de la poésie médiévale de Conon de Béthune, où on nous a dit, ouais, faudrait faire ça. Est-ce qu'on le fait ? Ou est-ce qu'on ne le fait pas ? Et en même temps, on va le faire. Et on va se dire que de la poésie médiévale, sur l'amour courtois, on va pouvoir le présenter à des enfants de 8 ans. Et de se dire que, et ils vont aimer ça, et ils auront envie de lire et de savoir qui est Conon de Béthune. Et que culture et connaissance et patrimoine et tout ça, la culture, elle n'est pas dans son champ propre, et qu'elle est ouverte sur tout ce qu'il y a autour. Et je trouve dommage, parfois, le tempérament qu'ont certaines compagnies à s'enfermer dans leur univers et finalement être un peu en vase clos. Et en tout cas, moi, ce que j'ai envie de défendre dans la compagnie Nautique, c'est de se dire qu'on est ouvert sur le monde et ouvert à toutes les problématiques qui traversent les gens. Et que finalement, est-ce qu'on peut passer dans le Nord-Pas-de-Calais 5 ans à ne pas regarder ce qui se passe autour de nous, qui est les commémorations de cette grande guerre, et comment on peut ne pas y participer. Bon, alors après, ça nécessite des moyens, une organisation, on ne fait pas un spectacle en deux jours, mais en tout cas, comment ça peut résonner, c'est ça qui est important, et forcément, il y a des choses qui résonnent en nous à travers de ce qui se passe autour. Et je ne pense pas qu'on puisse, c'est mon point de vue, créer une compagnie sans être perméable à tout ce qui agite la société autour de nous. Voilà. Après, évidemment, comme disait Clément, on avait déjà des idées de spectacle, et c'est finalement, on s'est dit que la Grande Guerre, on voulait travailler sur la femme dénudée, sur la sublimation du sentiment, du fantasme, et en fait, on s'est rendu compte que c'était génial, la Grande Guerre. Enfin, voilà, pour ça, c'était le terreau le plus fertile qui soit, quoi. Donc, finalement, ça se marie bien. Après, il y aurait eu un appel à projet sur la plantation du poireau au Venezuela. On ne se serait peut-être pas autant emparé du sujet, quoi. Voilà,
ça serait... Je ne sais pas qui plantait des poireaux.
c'est très méconnu. Mais...
Le mot de la fin, on vous rappelle quand même que la guerre, c'est pas bien. Et puis on va rappeler peut-être donc les heures. Alors les heures de visite pour l'exposition, l'installation sonore au musée d'ethnologie régionale de Béthune, donc à la chapelle Saint-Prix, c'est ça se passe.
Donc c'est visible aux horaires d'ouverture de la chapelle, donc c'est les après-midi, puis le week-end aussi, jusqu'au 15 mars.
Et donc ce spectacle Noir sur Noir aura lieu
dans la ville de La Couture, alors c'est juste au-dessus de Béthune, direction Armentières, dans la scène mobile d'Artois.com, en gros c'est une sorte de chapiteau à spectacle qui sera installé sur le terrain de football. Mmh. Et voilà, donc c'est à 19h pour le tout public là-bas, c'est gratuit, il faut juste réserver auprès d'Artois.com. Et voilà, le spectacle dure 45 minutes, il ne dure pas jusqu'au 15 mars.
Oui, c'est jeudi 25 septembre, hein, on le précise.
Ouais, voilà.
Il y a d'autres dates de prévu ?
Oui, oui, il y a d'autres dates.
Alors voilà, on joue 5 fois en janvier au Théâtre Massenet à Lille. On rejouera à Béthune le 8 mars pour la Journée de la Femme. On devrait jouer en juin du côté de la communauté de communes des Deux Sources. C'est en cours de mise en place. Et puis, on espère bien jouer à Arras à l'automne. Mais comme rien n'est sûr, on n'en parlera pas.